Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure de l'invité politique du vendredi. L'homme qui vous parle ce soir est philosophe. Son diagnostic de la France, il l'a fait au plus près des habitants, dont une partie à cheval, telle montagne. Le constat pour lui, c'est qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, mais d'abord en sortant des normes, c'est-à-dire, cela comprend les textes, mais aussi le personnel qui s'emploie à les faire et à les faire appliquer, d'où le nom de son mouvement, Simple, j'allais dire tout simplement. Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir.
Merci d'être là. Être candidat à la présidentielle, ça ne s'invente pas du jour au lendemain en se rasant, quoique. Qu'est-ce qui vous a fait sauter l'étape?
D'abord, moi, ça fait 10 ans que je suis investi dans le débat public via le think tank que j'ai créé, Génération Libre, que j'essaye porter des idées fondées sur la liberté, sur l'autonomie, sur la responsabilité individuelle, que je ne vois pas porter dans les différents partis qui composent aujourd'hui l'échiquier politique. J'essaye de remettre en cause notre tradition jacobine,
verticale. Ce que vous dites, la liberté individuelle, aujourd'hui, c'est les anti-vax qui portent cette idée.
Mais la liberté individuelle, c'est aussi les révolutionnaires français de 1789 qui la portent. C'est notre très belle déclaration des droits de l'homme. Et je pense que justement, dans des temps de crise sanitaire, sécuritaire et demain écologique, il est plus important que jamais de comprendre quel est notre héritage et de préserver ces libertés.
Et on a l'impression, vous avez l'impression qu'on mélange tout aujourd'hui ?
Ah, j'ai clairement l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus compris à quoi servait la loi. Mmh. Et on considère que la loi, elle est là pour créer des emmerdements aux gens, je reprends les termes du président de la République.
Celui-là et d'un autre avant lui.
Et de Pompidou, mais qui avait une formule un peu plus judicieuse.
Ouais.
Et tout ça pour dire que ce constat, je l'ai fait, comme vous dites, sur le terrain, en logeant chez l'habitant pendant les longs mois que j'ai traversé la France à cheval. J'ai constaté que ce qui revenait tous les soirs au dîner, dans des circonstances différentes, dans des sociologies différentes, c'est que les gens avaient l'impression que les normes qui s'appliquaient à eux n'étaient pas respectables, et donc n'étaient pas respectées, ne s'appliquaient pas au terrain, étaient absurdes, et que tous ces acronymes qui constituaient leur environnement quotidien devenaient extrêmement pesants, contre-productifs, et qu'au fond, ça traduisait une défiance de l'État central vis-à-vis du citoyen, que le citoyen ensuite rend bien à l'État central, et ça explique, je pense, en grande partie notre crise démocratique, ça explique en grande partie le populisme, parce que quand vous ne pouvez plus comprendre la loi, quand elle n'est plus intelligible, eh bien, vous ne la respectez plus, tout simplement.
C'est-à-dire que les gens comprennent qu'il faut une loi, ils comprennent que l'État doit être normé, mais ils ne comprennent pas le poids des normes, et ce qu'ils représentent aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez entre 400 et 500 000 textes.
Qui sont tous appliqués.
Non, justement, parce que plus on fait une loi
mais qui peuvent servir,
absurde,
comme on dit.
Regardez, aujourd'hui, on vous impose le masque dans la rue, tout le monde sait que ça ne sert à rien, personne ne le met, mais voilà, une norme qui contribue à décrédibiliser...
Ça saute à Paris, là, en l'occurrence.
...continue à décrédibiliser l'état de droit, la police dit on ne va pas l'appliquer, le gouvernement dit on l'applique avec tolérance, autrement dit, on ne comprend même plus quel est le sens, en fait, d'une loi dans un état de droit. Et l'inflation normative, c'est un phénomène qui est... bien connu, qui est recensé tous les 5 ans par le Conseil d'État, qui écrit des rapports en expliquant que trop de droits tuent le droit. Et simplement, sur le terrain, on voit que ceux qui en pâtissent, eh bien, ce sont ceux qui sont le plus éloignés des cercles de pouvoir, le plus éloignés des réseaux d'information, parce qu'eux n'ont pas les moyens de se défendre. Quand vous rencontrez des gens qui fondent des fermes auberges, c'est-à-dire qui font un honnête travail très simple à comprendre, qui est d'élever des bêtes et ensuite de servir à table... et qu'on se retrouve entre GAEC, entre SARL, à décompter des heures, à leur reporter de l'un sur l'autre. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, tout le monde le sent dans son quotidien. Prenez les agents du service public, les profs se mettent en grève pour dénoncer l'absurdité des procédures sanitaires. Les chercheurs et les universitaires ont publié une tribune il y a quelques jours dans le monde.
On est les seuls au monde. Vous êtes allé voir chez les voisins européens, dans le monde entier. Il y a des normes aussi.
D'ailleurs, David Graeber, qui est un grand anthropologue, qui a écrit pour moi le livre Magie majeure sur le sujet, sur la bureaucratisation, explique bien que c'est un phénomène qui concerne l'ensemble du monde occidental. Je pense néanmoins que la France, elle est un peu à l'avant-garde, si vous voulez, du sujet.
Je vous pose la question, parce que quand on parle, enfin moi, quand je parle avec des voisins, qu'ils soient polonais, allemands, suédois, ils nous disent, chez nous, c'est pareil. Suédois, un peu moins.
Mais ce n'est pas une raison, si vous voulez. Et on a quand même, on est un pays indépendant, et on a quand même le droit de considérer que cette situation n'est pas normale, que les gens seraient plus heureux, plus épanouis, s'ils avaient davantage d'autonomie, si on leur si on les laissait, si on leur faisait un peu confiance pour faire des choses intelligentes qui soient adaptées aux réalités du terrain,
et là, plutôt que de toujours Gaspard les prendre Koenig pour des enfants. Sur voilà. Son cheval, et tac, tout d'un coup, plus de normes, plus de textes.
Ça ne s'est pas fait tout d'un coup, parce que après ça, j'ai fondé donc un mouvement simple. Ouais, ouais. Je l'ai fondé déjà en mai dernier, je l'ai fondé assez discrètement. Et ensuite, eh bien, j'ai repris
mon... Dans le sens, j'en ai pas fait effusion.
J'ai pas fait beaucoup de couverts de médias nationaux de manière tout à fait intentionnelle pour pouvoir travailler, justement, travailler tranquillement. Et donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin et pendant 3 mois, tout l'été, avec l'équipe que j'ai constituée, j'ai sillonné le pays et j'ai été récolter, justement, ces témoignages sur le terrain et via un site internet. On en a reçu plusieurs milliers. On les a travaillés avec un groupe de juristes de droit public que j'ai constitué. Et on en a tiré une proposition très radicale. On a baptisé Projet Portalis du nom du juriste qui simplifia le magma du droit féodal et qui créa le Code civil en 1804. Un grand moment de refondation institutionnelle.
C'est pour ça que vous êtes un tiers Montaigne, un tiers Portalis et un tiers Pompidou, je crois.
Voilà, oui, si on veut. et donc ce projet, si vous voulez, c'est un projet qui est non seulement sérieux, mais qui, au fond, vient de loin, vient de plusieurs années de travail théorique, vient de toutes ces expériences sur le terrain, vient de réflexions avec un groupe de juristes. Et c'est seulement une fois qu'on a établi ça, qu'on a vu que le sujet, que l'intuition, elle était vérifiée sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai fait des centaines de réunions avec des élus, des réunions publiques, du porte-à-porte, des associations. On discute de ça et on vous dit, bah oui, pour le handicap, c'est terrible, on est obligé de prouver tous les 2 ans que notre enfant n'a toujours pas de pouce ou n'a toujours pas de bras.
Alors qu'il est né, oui.
Voilà, les artisans, pour les plombiers chauffagistes.
Oui, pour toucher les aides, oui.
Oui, enfin tout simplement l'allocation à laquelle on a
oui,
droit.
Bien sûr, oui.
Les plombiers chauffagistes vous expliquent que le nouveau formulaire CERFA sur le tri des déchets fait qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être à la fois les comptables d'eux-mêmes et exercer leur activité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils se retrouvent dans des grandes structures mais qui, elles, ont la compta, le juridique.
Pardonnez-moi, Gaspard Koenig, mais ce constat, on parlait tout à l'heure de Marine Le Pen avec mes confrères du JDD et de Paris Match. Marine Le Pen, comme d'autres candidats, va au contact des populations. On parle des fins de mois, elle recueille. On a parlé d'Éric Zemmour également dans le journal. On recueille comme ça la photo, l'instant T du quotidien des Français. Il y en a un autre qui a fait un diagnostic aussi, parce que ça a été un des pans de sa campagne en 2017, c'était Emmanuel Macron qui avait fait un diagnostic avant même de ce. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus, j'allais dire, dans votre approche, à part, j'allais dire, le cheval? Et il faut quand même nous expliquer cette histoire de cheval, parce que c'est assez anachronique, j'ai envie de dire.
Le cheval, c'était le projet précédent. C'est parce que j'avais fait d'abord une longue enquête sur l'intelligence artificielle et j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de voyager en profondeur, de voyager lentement, de réhabiliter l'aléa en suivant donc les traces de Montaigne, qui est le philosophe de l'inopportun, de l'inattendu. Et j'avais surtout envie, via ce moyen de transport un peu effectivement étonnant, eh bien de toquer aux portes et de susciter.
Et alors quand même, il y a un type qui arrive à cheval, il toque à votre porte. C'est quoi la réception?
Ce qui est vraiment formidable, c'est que bien sûr qu'il y a des problèmes d'insécurité dans ce pays, mais néanmoins j'ai traversé la France pendant 3 mois du sud-est au nord-ouest. J'ai été vraiment très bien accueilli. J'ai été logé, nourri, blanchi. Les gens m'ont donné un coup de main pour aller chercher le veto, pour trouver des granulés et du foin. Enfin, j'ai trouvé une France accueillante, généreuse, débrouillarde, souvent avec plein de difficultés, souvent avec pas beaucoup d'argent, mais d'autant plus solidaire, justement, que la vie est dure. Et ça donne une image quand même très positive du pays. Et quelque part, ça donne encore plus envie de s'investir en politique et de faire quelque chose pour que les gens puissent vivre leur vie, parce qu'ils la vivent bien, qu'ils ont plein de projets, qu'ils ont plein d'initiatives dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la solidarité locale, qui sont aujourd'hui inhibés par un système central.
Oui.
Qui les empêche véritablement d'aller jusqu'au bout de leurs rêves.
On va parler justement de votre programme, de la façon dont vous allez l'articuler, juste après une première pause. Nous sommes dans les débats d'Europe Soir et mon invité est le philosophe et désormais candidat à la présidentielle, Gaspard Koenig. Restez avec nous.
Europe Soir,
Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau d'Europe Soir avec le philosophe Gaspard Koenig, désormais candidat à la présidentielle. Gaspard Koenig, ça vous tente l'Élysée à titre personnel? Parce que pour citer Montaigne, que vous affectionnez particulièrement, oui, il dit « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul ».
Absolument. Et justement, à titre personnel, moi, je n'ai jamais rêvé d'être président de la République. Et je trouve d'ailleurs que cette élection du président de la République au suffrage universel est plutôt quelque chose qui nuit à notre fonctionnement démocratique.
Ah, comment on devrait faire ?
Il y a une démocratie représentative, mm-hmm, qui marchait très bien, je pense, jusqu'en 1962, très exactement. Cette élection, elle est un peu plébiscitaire. Elle repose beaucoup sur la personnalité d'un homme et assez peu, en fait, sur le débat d'idées. Et je pense que c'est pour ça que la France se réforme, au fond, très peu et très mal. C'est que je vois très bien, pour y avoir participé de plus loin, dans mes fonctions au think tank, comment se passe une campagne présidentielle. C'est tellement difficile d'y arriver, de se faire apprécier, d'être partout sur le territoire, d'avoir les bonnes alliances, qu'en fait, le programme, c'est le dernier truc que vous faites sur un coin de table, en 3 mois, avec quelques énarques. Et quand vous êtes élu ensuite, vous faites vos 2-3 mesures symboliques et vous êtes repris par les affaires courantes. Et puis, place au suivant. Et je pense que...
C'est quelque chose que vous reprochez au président sortant, notamment ?
Complètement. Le président sortant, il a été quand même élu sur la promesse d'une révolution. Mm-hmm. Et on peut dire que sur le plan structurel, les réformes qui ont été faites sont extrêmement timides. Mais je pense que les gens comprennent bien...
Qu'est-ce que vous lui reprochez le plus ?
Juste pour finir, puisque vous m'interrogez là-dessus, ce que les gens comprennent bien, c'est qu'un homme qui a réponse à tout, oui, c'est pas possible. Et que cette promesse, elle est forcément déçue. Et que donc, il faut, je pense, afficher une attitude plus modeste, de dire, moi, j'ai un certain nombre de sujets qui sont vraiment fondamentaux, qui débloquent les choses, qui permettent ensuite aux gens de trouver leurs propres solutions. Mais je n'ai pas réponse à tout, je ne couvre pas tout.
Il ne l'a pas fait dernièrement quand il a dit « j'ai appris », notamment dans cette grande interview sur TF1.
Mais moi, j'ai trouvé cette interview incroyablement paternaliste, parce qu'il nous explique qu'au contact des Français, il a appris à mieux les apprécier, à mieux les aimer. Enfin, on a vraiment l'impression d'un monarque qui parle du bon peuple. Et je pense que c'est le biais de nos institutions, mais que ce biais a été renforcé par cette présidence qui a recentralisé le pouvoir, si c'était encore possible, à la fois sur le plan de l'organisation du territoire, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation, le plan évidemment institutionnel, avec ces états d'urgence permanents qui ont dénué au Parlement sa fonction légitime, et sur le plan économique, avec la création de hauts commissariats au plan, de grands plans d'investissement. Enfin, c'est un pouvoir très centralisé aujourd'hui, et je pense que c'est ça le problème principal de ce pays, c'est de ne pas faire confiance à l'initiative locale, au plus petit échelon, que ce soit l'individu, la commune ou l'entreprise.
Est-ce qu'il y a des pays étrangers ? On parlait justement des pays étrangers. Est-ce qu'on doit s'inspirer de certains pays ?
Moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est des reportages. Et j'ai été tester des idées, justement, de liberté, d'autonomie dans différents pays. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un pays qui incarne la liberté, mais je dirais que sur certains sujets, on peut aller voir ailleurs des choses qui ont marché.
Par exemple ?
Par exemple, en Suisse, mm-hmm, les procédures de démocratie directe au niveau local,
ouais, elles sont,
je trouve...
Il y a 3 cantons qui...
Pas du tout. Moi, j'ai été assisté à des Landsgemeinde. Alors, j'y étais, donc je vais vous le dire.
Il y a 3 cantons, mais on vote à main levée.
Oui, bien sûr, mais les autres cantons, on ne vote pas à main levée, mais on vote quand même.
On vote quand même, oui.
On vote quand même. Excusez-moi, on vote sur la moitié des lois suisses sont des lois locales, et on vote sur des choses extrêmement...
Mais c'est parce que c'est un pays fédéral et il y a des cantons.
Laissez-moi finir. Et on vote sur des choses extrêmement importantes, oui, sur l'impôt sur le revenu, sur les jours de congé des fonctionnaires locaux, mm-hmm, sur une route qui doit passer ici ou là. Et on donne la responsabilité aux gens, par la voie du référendum, d'exprimer leur opinion sur des sujets qu'ils maîtrisent bien, parce que ce sont des sujets locaux.
Bon, moi, il y a 67 millions de personnes en France.
Mais
ça va être difficile.
Vous pouvez avoir autant de communautés qui s'organisent et qui prennent leur destin en main. Et moi, j'y ai été en Suisse, donc j'ai assisté à la Landsgemeinde de Glaris, j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai trouvé ça tout à fait remarquable, parce que c'est véritablement ce que Tocqueville appelait l'essence de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, la démocratie locale. Je pense que c'est quelque chose qui n'est d'ailleurs pas impossible en France aujourd'hui, puisque le référendum local est quelque chose qui se développe, mais c'est quelque chose qui gagnerait à être développé, à être plus contraignant. Et je pense de manière générale qu'il faut donner plus d'autonomie, alors, au plus petit échelon, autonomie fiscale, autonomie démocratique, autonomie réglementaire. Si on continue sur les exemples étrangers, J'ai été voir au Colorado la libéralisation du cannabis. Et bien, la libéralisation du cannabis, ça permet de faire baisser la criminalité, bien sûr de faire baisser le trafic, de faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État et d'avoir une vraie politique de santé publique pour soigner ceux qui sont dans des processus
d'addiction. Vous connaissez les dérives sur la légalisation du cannabis aussi.
Ben, je les ai pas
vus. Risques de dérive.
Mais excusez-moi, mais j'y ai été. J'ai regardé comment ça s'est passé. Justement, moi, j'ai une démarche très pragmatique. Je confronte mes idées au réel. Je pense que c'est ce que je fais pendant tous mes voyages. Et j'ai trouvé que ça, eh bien, ça marche bien. Et qu'en France, aujourd'hui, on a un énorme problème d'état de droit lié justement au trafic du cannabis qui pourrait être largement résolu par la légalisation. Et par ailleurs, je trouve que c'est aussi une question de liberté fondamentale d'être en mesure, quand on est un adulte libre, éclairé, et c'est le cas de le dire, vacciné, et bah de faire ce qui ne nuit qu'à moi-même.
Ah bah ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que quelle position vous avez sur ceux qui ne sont pas encore vaccinés et qui manifestent d'ailleurs de temps en temps, enfin même de plus en plus souvent.
Alors, j'ai toujours été opposé au pass sanitaire et au pass vaccinal, très clairement. Je suis favorable à la vaccination, je suis vacciné moi-même, j'encourage les gens à se faire vacciner, mais je pense que à partir du moment où la non-vaccination est légale, puisqu'aujourd'hui, il est parfaitement légal de ne pas être vacciné, eh bien, à ce moment-là...
Il y a des contraintes maintenant, voilà.
Oui, mais justement, c'est pas ça le rôle de la loi. Et on revient à notre discussion précédente. Le rôle de la loi n'est pas de créer des souricières pour contraindre les gens à adopter certains comportements.
Et donc, le reliquat de ces personnes, qui est quand même très très faible en France, qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on en fait ?
Écoutez, aujourd'hui, si, comme on nous l'annonce... la situation s'améliore parce que Omicron est moins dangereux, moins létal que l'était son prédécesseur. Et si on s'aperçoit que le début de saturation des services de réa que nous voyons, commence à retrouver, disons, une certaine normale, si nous sommes dans cette situation, et je dis bien si, alors je trouve tout à fait normal que les gens puissent exercer leur liberté de conscience en refusant d'être vaccinés. Et que l'hôpital les soigne.
Donc on devrait laisser tranquille.
Et que l'hôpital les soigne parce qu'un médecin a prêté le serment d'Hippocrate et ne doit pas demander aux gens leurs opinions. Enfin, il peut leur demander, mais il ne doit pas prendre en compte les opinions, les pratiques des gens. Moi, je pense qu'il faut faire œuvre de beaucoup plus de pédagogie. On a beaucoup trop vite été sur,
justement, la
sur la contrainte.
Ouais. Et notamment pour le personnel soignant qui parfois ne comprend pas et qui dit tiens, voilà, cette personne n'est pas vaccinée, donc elle a quand même beaucoup plus de chances d'être en mauvaise santé. Et il y a justement dans les hôpitaux, on a entendu il y a une vraie non pas grogne parce que c'est pas le mot, mais c'est très très pesant pour le personnel soignant.
Et je comprends ça. Et
on est
Mais on est en épidémie. Donc forcément, c'est une situation qui est très dure pour le personnel soignant.
Ah oui. Et ils l'ont connu quand il n'y avait pas les vaccins.
Et heureusement que le personnel soignant est là pour soigner tout le monde sans justement faire de distinction. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces médecins qu'on voit notamment s'exprimer publiquement et qui disent « Moi, j'ai évidemment des sentiments personnels par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés, que je partage à titre personnel, mais c'est mon devoir de ne pas en faire état et de les soigner comme tout autre malade. »
Et vous avez de l'admiration aussi pour les médecins qui demandent de signer une décharge quand on est non vacciné ?
Et non, je ne pense pas que ça doit se passer comme ça. Je ne pense pas qu'on peut commencer à organiser une société où on soigne certaines personnes.
Donc vous les blâmez, ceux-là.
On ne soigne pas d'autres personnes. Après, s'il y a un problème de saturation critique et durable des services de réa, qui visiblement n'est pas la situation actuelle, puisqu'il semble que cette vague soit en train de passer. Mais admettons, d'accord, que l'on soit dans une situation critique et durable sur les services de réa, et que donc les non-vaccinés commencent à créer un véritable dommage au reste de la société, à ce moment-là, la seule mesure qui me semble justifiable, c'est la vaccination obligatoire, peut-être pour les plus de 50 ans ou 60 ans, comme l'a fait l'Italie, c'est-à-dire pour ceux qui posent véritablement problème dans ces services. Mais je préfère largement ça sur une population ciblée et avec une obligation donc qui doit être respectée et qui doit être fait respecter par l'État, que cette espèce de truc très sournois où chacun doit donner son pass et où la population se surveille elle-même.
Pour information, on est à 77% de tension réa en ce moment dans le pays. On parlait de la simplification. Je reviens juste un instant sur l'exemple que vous avez pris en Suisse. Et ça m'a étonné quand vous avez dit que, bah justement, on devrait peut-être développer ce genre de démocratie participative, alors que vous avez dit il y a une dizaine de minutes que finalement, le suffrage universel, on votait à la tête du client. Donc, c'est un peu antinomique.
Non, pas du tout, parce que je distingue complètement, de ce point de vue-là, le niveau local et le niveau national.
Ça veut dire qu'au niveau local, on est plus intelligent ?
On connaît mieux les problèmes qui se posent.
Ah,
oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, d'ailleurs, les Suisses, puisque vous en parlez, ont commencé par la démocratie au niveau cantonal pendant plusieurs siècles, avant de passer à la votation nationale au 19e siècle. Mmh. Ce n'est pas un hasard si Tocqueville lui-même dit qu'il faut commencer. La démocratie locale, c'est l'apprentissage de la démocratie. C'est comme quand vous êtes dans votre syndic de copropriété, vous apprenez à faire des compromis, vous apprenez à comprendre les problèmes des autres et vous gérez des situations qui sont extrêmement palpables, extrêmement tangibles. En revanche, je trouve que le référendum d'initiative populaire au niveau national est un instrument dangereux qui, effectivement, ouvre la voie aux pires démagogues. Mais au niveau très local, vous ne pouvez pas vraiment avoir un démagogue parce que les gens, ils connaissent le terrain, ils voient et vous ne pouvez pas les tromper autant.
Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le syndicat de copropriété. Ça me fait rire parce que je crois qu'on n'a pas le même personnellement, vous et moi. Vous proposez une société de confiance,
oui,
d'adultes, de vivre ensemble. C'est ce que j'ai lu dans votre programme. Mais tout le monde n'aime pas ça, le vivre ensemble.
Ce que je dis très précisément, c'est que c'est par la confiance, par la confiance qu'on fait à l'individu, parce qu'on pense que quand on remet la loi au bon niveau d'intelligibilité, quand on donne de l'autonomie, encore une fois, à la commune, à l'entreprise, aux citoyens, donc quand on lui fait confiance, il se comporte de manière...
Il ne l'enfreint pas.
...plus responsable. Il faut, d'ailleurs, vous parliez de Montaigne au début, c'était vraiment la grande leçon de Montaigne. Mm-hmm. Pour recevoir la confiance, il faut commencer par la donner. Le fait que nous soyons dans une société de défiance... C'est le constat de Perfitte dans les années 70. C'est quelque chose qui est largement aujourd'hui démontré par les études sociologiques. Et dans une société de défiance où tout de suite, dès qu'il y a un conflit, par exemple, même un petit conflit, un petit litige, on va aller voir le juge, on va aller voir l'État, on va appeler les flics, on va appeler la police. On n'essaye pas de résoudre le problème entre nous.
Et je peux vous dire qu'en Suisse, on appelle la police assez souvent.
Regardez le succès des procédures.
Mon voisin est mal garé, allô la police, venez enlever la voiture.
Regardez le succès des procédures de médiation. J'étais voir des médiateurs à Bordeaux. Bon, quand vous mettez deux personnes qui ont un conflit de voisinage classique et qui sont immédiatement en train d'appeler le juge en train d'avoir recours à la norme, quand vous les mettez dans une pièce et que vous les incitez simplement à se parler pour qu'on comprenne pourquoi la clôture est trop haute, pourquoi la haie est faite comme ça, pourquoi la cabane fait de l'ombre ou quoi que ce soit, dans 75% des cas, vous résolvez le litige sans avoir besoin d'aller devant les tribunaux. Ça, c'est un bon exemple de sociétés de confiance où on organise de manière institutionnelle des espaces où les gens peuvent débattre, peuvent se parler, c'est un peu la même chose avec la démocratie locale, et peuvent résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes.
Gaspard Koenig, philosophe mais aussi candidat à la présidentielle, revient dans un instant sur le plateau d'Europe 1. Restez avec nous.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Avec Gaspard Koenig, candidat à la présidentielle depuis... cette semaine, d'ailleurs, tiens, ça c'est une question, effectivement. Pourquoi là, maintenant, tout de suite, cette semaine ? Vous avez eu le déclic, là ?
Non, j'étais pas prêt avant. Je vous ai dit, ça a été un long processus.
Et c'était calculé déjà il y a quelques semaines que ça serait cette semaine-là ? Non.
Non, c'était un long processus de fonder un mouvement politique, de faire une proposition crédible, de constater que des gens suivaient, qu'on avait une communauté. Oui. Voilà, et ensuite, on a décider d'une date pour la déclaration de candidature une ou deux semaines avant.
Oui. Je vois sur votre veste un pins. C'est même pas un pins, c'est comme on appelait ça à une époque, parce que ça revient à la mode. C'est un peu plus gros qu'un pins, il y a écrit simple dessus. Ça, c'est le trend, j'allais dire, de votre, pour prendre un anglicisme, qui va pas plaire à certains auditeurs, mais en tout cas le pilier de votre programme. Alors, il y a effectivement quelques phrases sur la simplification que j'ai lues. Simplifier, c'est libérer la création d'activités en donnant de l'air aux artisans, aux petits entrepreneurs, etc. C'est améliorer la sécurité en libérant les policiers de la charge administrative de la politique du chiffre, d'accord. Simplifier, c'est permettre aux entreprises de faire leurs propres choix d'investissement et de prendre leurs propres risques en supprimant autant de subventions que d'impôts, c'est-à-dire
Nous, ce qu'on propose, on va décliner la simplification à l'ensemble des sujets de politique publique. Oui. Et on fait ça, à droit constant et à coût constant. Et donc, sur l'entreprise, aujourd'hui, on dit que les entreprises sont les plus taxées d'Europe. C'est vrai, mais c'est aussi les plus aidées d'Europe. Et donc, ce qu'on propose, c'est quelque chose de très simple, c'est de supprimer 50 milliards d'impôts d'un côté y compris de baisser l'IS à 20%, pour entrer dans les détails, et de supprimer 50 milliards d'aides et de niches fiscales de l'autre. Et donc, vous voyez, vous avez le même poids fiscal.
Mais est-ce que ça
pour l'entreprise, vous avez les mêmes recettes.
Ce ne sont pas les mêmes entreprises.
Pour l'État, ça crée effectivement quelques déséquilibres parce que certaines bénéficiaient de plus de réduction d'impôts qu'elles payaient d'impôts, etc. Oui, il y aura un ajustement.
Les secteurs,
Il y aura un ajustement. Mais au lieu ensuite de passer leur temps à de faire des demandes de crédit d'impôt, de subventions, d'un côté, vous savez qu'il y a plus de 3500 aides différentes aux entreprises,
ouais.
des départements entiers, voire des cabinets d'audit qui gèrent ça pour elles. Et donc, comme toujours, c'est les gros, en fait. Hein, on parlait des différents secteurs, des différentes entreprises, mais en fait, c'est les gros qui, comme toujours, bénéficient le plus de la complexité parce qu'ils peuvent engager des gens qui la décryptent pour eux. Et c'est les petits qui, eux, ne trouvent jamais le bon créneau, la bonne niche, le bon truc, et qui prennent le taux maximum.
Alors,
donc, si cette réforme change quelque chose, c'est que, elle va rendre de l'autonomie aux entreprises. On ne va plus leur dire quoi faire, où investir, comment être incité, etc. On va leur dire maintenant, vous faites vos propres projets, et puis l'État n'a pas à se prononcer moralement sur les investissements que vous faites, qui sont légaux. Et puis, deuxièmement, c'est quelque chose qui va plutôt bénéficier aux plus petites structures qui, elles, ne peuvent pas déployer tous ces moyens pour gagner des niches ici ou là.
Alors justement, j'en prends une dernière. Simplifier, c'est désengorger les tribunaux en clarifiant le droit et en privilégiant toujours la médiation. Ça, Gaspard Koenig, j'ai envie de dire, tout le monde a essayé.
Ah bah, tout le monde n'a pas essayé parce que le projet, le cœur du projet, c'est justement ce projet de simplification radicale du droit. Ce projet, on l'a encore une fois construit avec des juristes, docteurs en droit public. Et il consiste non pas à faire une énième commission de simplification qui se demande quelles normes on va ôter. Et à ce moment-là, on en enlève une, mais il y en a deux qui reviennent et puis quatre qui reviennent par la porte parce que la machine à produire de la norme, elle est toujours là. On fait tout l'inverse. On se demande quelles normes on va garder. Et donc, on recodifie l'ensemble du droit français en remontant au
c'est
grand...
du travail.
Oui.
Ça va mettre au moins un quinquennat.
C'est du travail, mais c'est du travail d'abord. C'est du travail qui ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est du jus de cerveau. C'est des juristes, c'est la société civile. Et donc, on dégage les grands principes généraux et ensuite, on dit, voilà, seuls ces principes ont valeur législative. C'est-à-dire que la promesse, c'est de diviser par 100 le nombre de normes, c'est très radical, et de pouvoir faire tenir le droit français en un volume. Ce qui est à la fois radical et utopique et le minimum, au fond, dans un état de droit. Imaginez que tous les Français reçoivent le droit accessible,
voici le droit
lisible,
de votre pays.
Intelligible.
Droit pénal, droit des entreprises, droit du travail, droit social, droit tout.
Et si vous voulez, c'est un peu le minimum qu'on puisse exiger. Et c'est quelque part l'équivalent de la révolution protestante dans la lecture de la Bible. C'est que tout d'un coup, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires pour avoir accès à la loi qui vous gouverne. Et c'est là que vous en êtes mieux protégé, parce que vous pouvez directement vous en réclamer, parce que vous la comprenez et que vous pouvez l'adapter au terrain, à votre propre situation, et qu'elle vous laisse une marge de manœuvre pour agir sans vous engoncer dans des procédures millimétrées.
C'est là où il faut se mettre d'accord. C'est la marge de manœuvre. Est-ce que les Français seront capables d'avoir cette marge de manœuvre
et
pour
alors,
se dire, bah, tiens, dans ce cas-là, on me propose un choix alors qu'avant, j'en avais 25.
Mais c'est pareil.
On va s'entendre là-dessus. Et vous parlez de la médiation. Mais ça a encore bon courage pour la médiation, puisque vous dites qu'on est dans un pays, justement, où on est procédurier et indiscipliné.
Précisément, je pense qu'aujourd'hui, on a créé le cercle vicieux de l'infantilisation. Et donc, plus on traite les gens comme des enfants, plus tout le monde fraude, plus on leur fait faire remplir des attestations débiles pendant le Covid, plus les gens font n'importe quoi, en mettent plusieurs dans la poche. Alors que dans un système responsabilisant, c'est là que les gens, petit à petit, construisent leur rationalité, leur espace de liberté. Et oui, j'ai confiance en ça, parce que d'abord, je l'ai vu à l'œuvre dans les expériences que j'ai été visiter, j'en parlais, à l'étranger. Et je ne pense pas que les Français soient par nature un peuple... on dit qu'il faille gouverner avec la trique. Je pense qu'on est en fait très 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 bien positionné, très cultivé de manière générale et capable de prendre notre destin en main. Et si on ne croit pas ça, franchement, pourquoi faire de la politique ou s'investir dans le débat public? Vous savez qu'il y a un responsable politique dont je tairai le nom qui m'a dit un jour, les Français sont comme un oiseau dans une cage, si on ouvre la porte de la cage, ils ne vont pas en sortir. Et bien moi, je fais le pari qu'ils vont en sortir, qu'ils vont mettre d'abord une aile, deux ailes et qu'ensuite ils vont être très heureux à l'air libre.
Vous faites un focus dans le programme sur le président de la France, mais un président, surtout au président de la 5e puissance mondiale, il y a beaucoup à l'international. Quel genre de président vous serez à l'international?
Alors, toute l'idée, c'est de d'abord faire le ménage en interne, si je puis dire, pour retrouver, moi, ma France, c'est un peu celle de 1789, et pour retrouver fermement la France de la Déclaration des droits de l'homme, l'état de droit. Et ensuite, je pense que la France sera d'autant mieux placée pour, dans le cadre des institutions internationales, eh bien, promouvoir cette conception de la liberté, cette conception de l'état de droit dans le reste du monde.
Et vous serez un chef militaire aussi, avoir le fine code sur les opérations de théâtre extérieur, envoyer le porte-avions à tel endroit, de dire ce qu'on fait de l'Europe de la défense, qui est très critiquée en ce moment, justement.
Mais vous savez, ça revient un peu à ce que je disais au début. Je pense qu'il faut être modeste, ne pas penser, parce que c'est facile de se faire faire une fiche sur la politique de défense et d'avoir tout d'un coup un avis sur la politique de défense. Et au fond, c'est plus difficile.
On ne peut pas vivre toutes les expériences du monde, Gaspard Koenig. Voilà. Et c'est on vit combien de temps ?
Non, mais justement, et ce que je vous dis, c'est que je ne vais pas décider seul de tout. Je ne me prendrai pas pour le chef des pompiers, pour le chef des médecins, pour le chef de l'urbanisme.
Donc le président, pour vous, n'est pas le chef des armées ?
Je saurais, bien sûr, c'est le chef des armées, mais il faut surtout qu'il sache écouter ceux qui sont sur le terrain, leur donner de l'autonomie pour agir, parce que ceux qui sont le plus proches du terrain sont ceux qui savent le mieux. Et d'ailleurs, l'armée, de manière assez intéressante, quand on connaît un peu la hiérarchie militaire, est organisée comme ça. C'est à la fois, évidemment, très discipliné, très hiérarchique, mais en même temps, chaque soldat doit être capable, notamment en situation de combat, quand il n'a plus accès à sa chaîne de commandement, de prendre des responsabilités. Et toute la formation du soldat tourne autour de ça. À un moment donné, pouvoir être autonome. Donc, je pense que c'est plutôt un modèle intéressant, mais ça vaut, ce qui vaut pour l'armée vaut pour les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent d'un lien de subordination qui est trop rigide. Tout le mouvement de l'entreprise libérée est un peu gadget parfois, mais repose sur un fondement intéressant qui est comment vous donner de la responsabilité au plus petit agent pour que son travail retrouve un sens. Parce qu'aujourd'hui, si le travail est en crise, si on a ce que ce même Graeber appelait des bullshit jobs, des jobs où les gens ont l'impression de servir à rien parce qu'ils sont noyés dans les process, c'est parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et les industriels savent que quand ils commencent à faire confiance au plus petit échelon, à l'ouvrier de base, et tout d'un coup, l'entreprise se porte mieux et les gens sont plus heureux de faire leur travail.
Il nous reste 2 minutes, les intentions de vote à J-87 dans le dernier sondage IFOP Fiducial, LCI, Paris Match, Emmanuel Macron à 26%, Valérie Pécresse à 17%, je ne vais pas vous faire toute la liste, Jean Lassalle arrive dernier à 1%, vous allez faire combien et qu'est-ce qui se passe après ?
Ça, d'abord, c'est les électeurs ou pour le moment les sondés qui vont le dire, mais je pense que vous voyez dans cette immense...
Parce que vous avez dit que vous voulez surtout peser dans le débat
politique. Non, mais écoutez, il faut, comme disaient les Grecs, il faut viser le ciel pour toucher la cible.
Ouais.
Et dans le grand espace central qu'occupe aujourd'hui Emmanuel Macron et où globalement je me reconnais, qui va du centre gauche au centre droit, aujourd'hui vous n'avez qu'une seule proposition au fond. Et comme le dit avec beaucoup d'arrogance ce gouvernement, il y a une forme, ils s'arrogent une forme de monopole de la raison. Soit vous êtes raisonnable et vous votez pour nous, soit les autres sont un peu des fous, des amateurs.
Donc vous, par défaut, vous voudriez voter pour quelqu'un d'autre.
Non, et moi, je pense que dans le camp de la raison, il y a la place pour de la concurrence. La concurrence, c'est toujours bon, ça fait évoluer les hommes et les idées. Et que Emmanuel Macron propose un libéralisme par le haut, très technocratique. Moi, je propose un libéralisme par le bas, qui fait d'abord confiance au dernier maillon de la chaîne et qui ensuite laisse émerger la prospérité, le vivre ensemble, la confiance.
Merci beaucoup Gaspard Koenig et bonne chance dans cette présidentielle qui est largement entamée, dans cette campagne présidentielle largement entamée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans un instant, on retrouve le studio des légendes. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre. Effectivement, notre studio des légendes, comme chaque vendredi, avec Guy Roux, Jacques Vendroux, Charles Villeneuve, Fabien Otteniente, autour de l'interview exclusive au micro de Jacques Vendroux de Jean-Michel Aulas. On va débattre, évidemment. Est-ce la saison de trop, d'ailleurs, pour Jean-Michel Aulas à l'OL, qui traverse une mauvaise passe actuellement, mais d'autres thématiques également autour de Bordeaux et autour de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est peut-être un petit peu fourvoyé dans son organisation, notamment dans les décisions d'arbitrage ces derniers temps. Et puis notre match de Ligue 1, coup d'envoi à partir de 21h, ce sera Nice-Nantes en intégralité sur Europe 1.
Merci Lionel Rousseau, nous on se retrouve demain à 18h et surtout ne loupez pas vendredi prochain, puisque c'est désormais un rendez-vous, la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match. Très bonne soirée.